Chapitre 29. Téléphérique de Gulmarg, massif de l'Himalaya, Cachemire. Jamais le commandant Akinis n'avait ressenti une telle sensation de lenteur. La cabine du téléphérique accrochée au filin d'acier avançait à peine plus vite qu'un homme faisant son jogging. Artem avait beau se tenir debout, la secouer, pester, le câble se déroulait à une allure désespérément régulière. Par pur réflexe, sa main gauche s'accrochait toutes les 3 secondes à son poignet droit, posé sur son TPC. Inutile à partir du moment où il était entré dans l'espace privé du palace de Tanprao. Misha avait essayé de le débloquer, avec l'aide de tous les informaticiens du bureau d'investigation criminelle mobilisés en urgence absolue. Sans aucun résultat. Tanprao devait lui aussi avoir à son service une équipe de hackers surdoués. Il leur faudrait des heures pour trouver le moyen de déverrouiller le bouclier informatique et avoir la possibilité de se téléporter au sein de cet espace privé de 600 hectares. En pleine montagne. Impossible d'y pénétrer autrement que par ce téléphérique antique. Ou à pied. Comme ce tueur blond, Khan, qui progressait dans la poudreuse une centaine de mètres au-dessous de lui, aussi vite qu'il le pouvait, moins tout de même que ce téléphérique. Dans quelques minutes, Artem l'aurait rattrapé. Il serait à portée de tir, mais le commandant voulait le prendre vivant.
« Misha ! Babou ! » hurla-t-il dans sa tabletta. « Je vais bientôt avoir notre homme en point de mire !»
Khan avait beau ne pas renoncer, continuer d'avancer vers le Khyber Himalayan Resort dont on apercevait la façade de bois et la pointe du toit, moins 1 kilomètre plus haut, il était coincé. Tout autant que les policiers, il lui était impossible de se téléporter. Sa seule chance pour s'enfuir aurait été de tenter de redescendre vers le bas du téléphérique jusqu'à la limite de l'espace privé de Tanprao. Mais plus d'une dizaine de policiers du bureau d'investigation criminelle l'y attendaient, certains commençant déjà eux aussi l'ascension à pied. « Pris au piège !» pensa le commandant. Tant qu'il rabattrait Khan vers les sommets, il n'aurait aucune chance de s'échapper. La limite supérieure de l'espace privé s'étendait à plus de 3 kilomètres au-dessus du palace, à proximité de la ligne de crête. Restait à le capturer, dans un filet, sans trop l'abîmer.
« J'ai une idée, Arti !»
cria Misha.
« On va le prendre en tenaille !»
Avant que son supérieur ne puisse répondre, elle avait raccroché. Babou et elle étaient toujours postés sur leur promontoire en surplomb de la vallée de la Djeloum, mais des pitons rocheux leur masquaient tout contrôle visuel sur le commandant, sur Khan et la ligne du téléphérique.
« Babou, reste en contact !»
ordonna sa coéquipière en collant sa tabletta dans les mains du lieutenant.
« Attends-moi juste une seconde !»
Elle disparut. Artem gagnait du terrain sur le tueur, pylône après pylône, avançant en pure ligne droite alors que Khan devait contourner rochers, cèdres dorés, pins pleureurs et murs de neige. Visiblement, il espérait pouvoir rejoindre le Khyber Himalayan Resort avant d'être pris. Pourquoi ? Qu'espérait-il ? S'y cacher ? 50 hommes du BIC viendraient l'en déloger. Quel était le plan de Khan ? Comment espérait-il leur filer entre les doigts ? Il venait d'assassiner Tanprao. Il y avait donc peu de chances qu'il dispose du code d'accès lui permettant de se téléporter pour entrer ou sortir de cet espace privé. D'ailleurs, s'il en avait disposé, pourquoi serait-il monté lui aussi en téléphérique ? Pourquoi aurait-il attendu, en planque dans la montagne pendant des heures, le bon moment pour liquider le trafiquant ? Pourquoi ne se serait-il pas déjà téléporté ? Une explosion de verre, juste au-dessus de la tête d'Artem, fit brusquement voler en éclats ses pensées. Khan s'était allongé derrière un petit monticule de neige, fusil Dragunov pointé vers le téléphérique, et visait la cabine. « Merde !» Artem répliqua autant qu'il put, en rafale, soulevant la poudreuse tout autour du tireur couché. Le temps que le nuage de neige se disperse, Artem analysa la situation à la vitesse de l'éclair. Ainsi suspendu, sans aucun endroit pour se mettre à couvert dans la cabine, il fournissait une cible idéale au tireur. Le tueur allait pouvoir tranquillement se positionner et viser. Dès qu'Artem cesserait de mitrailler à l'aveugle, Khan l'abattrait, froidement. Misha réapparut devant Babou. Elle ne s'était pas absentée plus de 10 secondes. Elle portait sous le bras un cylindre de bois. Elle s'adressa au lieutenant sans prendre le temps de respirer.
« C'est tout ce que j'ai trouvé, ma natte de bambou, le truc sur lequel je dors tous les soirs quand j'en ai marre de trimballer mon futon. Viens, suis-moi »
L'œil de Babou pétilla.
faire la sieste avec toi ? Idiot, dépêche-toi ! D'un geste rapide, pointant son doigt, elle indiqua au lieutenant la direction où se téléporter. Perché au-dessus du sol, Astra 1800 au point, Artem tirait toujours en rafale sur le monticule de neige derrière lequel Khan s'était dissimulé une poignée de secondes plus tôt. Sauf que le tueur avait pu bouger. Ramper ailleurs, sous le nuage de neige, surgir n'importe où, face à lui, en dessous, ou se poster dans son dos. La télécabine avançait toujours, lentement. La tôle fragile n'arrêterait pas les balles d'un Dragunov. Artem n'avait pas le choix. Il ne pouvait rester perché sur un fil à se faire dégommer comme un pigeon d'argile. Il mitrailla d'une nouvelle salve la dune de neige, dressant un éphémère rempart de poudre blanche. Maintenant ! Le commandant sauta sans réfléchir. Il n'avait pas eu le temps de calculer la hauteur qui le séparait du sol. 10 mètres ? 20 mètres ? Seulement de vérifier que sous la cabine ne s'élevait ni arbre ni rocher. Il entendit plusieurs balles siffler près de son oreille sans ressentir la moindre douleur. Il n'était pas touché. Ah ! Le choc lui coupa la respiration. Les centimètres de neige poudreuse avaient amorti sa chute sans atténuer l'impact. Il eut l'impression que tous les os de sa cage thoracique se brisaient d'un coup, mais il était vivant. Il se laissa rouler dans le sens de la pente pour ne surtout pas fournir au tueur une cible statique, même si les balles ne sifflaient plus, et qu'il avait perdu Khan de vue. Il ralentit, s'agrippant aux épines d'un buisson squelettique, et leva les yeux vers les hautes façades de bois clair du Kyber Himalayan Resort. Il grimaça, souffla. Plus personne ne tirait dans sa direction, ça renforçait son intuition. Le tueur avait continué de grimper et se dirigeait vers le palace.
« On est à 3 kilomètres au-dessus du resort !» expliqua Misha. « On ne peut pas se téléporter plus près de la limite de l'espace privé de ce salopard de Tan Prao !»
Elle déroula à leurs pieds sa natte de bambou et évalua la longueur de la piste enneigée devant eux. Un bon kilomètre en pente raide.
« Et ?» bredouilla Babou qui avait peur de comprendre.
« Et on va se le faire à l'ancienne, papy !»
Elle positionna la natte de bambou dans le sens de la descente, s'assit dessus, releva l'avant du tapis de bois.
« Monte derrière moi !»
« Non, Misha !» protesta Babou. « Pas ça !»«
Monte derrière moi, je te dis ! Je croyais que tu adorais les vieux moyens de transport périmés !»
Le lieutenant Diop ne discuta pas davantage. Dès qu'il posa les fesses sur les lattes de bambou, le tapis glissa.
« Non !»
Lentement d'abord, sur quelques mètres, avant qu'il ne prenne de plus en plus de vitesse. Babou passa ses bras autour de la taille de Misha, dont les mains s'accrochaient au bord relevé de la natte. Elle décollait de sa luge improvisée à chaque bosse, mais Babou anticipait et la récupérait, assurant par son poids la stabilité de l'équipage. Ils apercevaient déjà le palace, ses grandes baies vitrées, au bout d'une très longue et large piste blanche, tapissée de sapins qu'ils espéraient parvenir à éviter. Artem rampa plusieurs mètres, Astra 1800 pointé vers l'amont. Toujours aucune trace de Khan. Il se recroquevilla, entama la montée, accroupi, guettant le moindre bruit, dirigeant sans cesse son pistolet dans toutes les directions, traquant le moindre détail. Sur sa gauche, il distinguait des traces de pas dans la neige. Deux lignes d'abord, 4 pieds, 2 épais et 2 moins larges qui descendaient et se perdaient dans la forêt sous le resort. Forcément ceux de Cléophée Loisel et de Lilio de Castro, analysa le commandant. Il repéra un peu plus loin une 3e série de pas presque parallèles aux précédentes, mais qui, elles, montaient vers le Kyber Himalayan Resort. Il l'avait vu juste. Le tueur tentait de rejoindre l'hôtel. Khan ne l'avait pas poursuivi après son saut de la télécabine, n'avait pas tenté de l'abattre, il avait au contraire profité de sa chute pour s'éloigner. Artem accéléra. Tant qu'il suivait les traces de Khan, ça ne pouvait pas être un piège. Si le tueur avait pris de l'avance, il n'avait pas eu le temps d'organiser un guet-apens. La montée était raide, mais Artem était habitué à produire ses efforts intenses chaque matin sur des pentes autrement plus difficiles. Le commandant n'était déjà plus qu'à 100 mètres du palace. Devant lui, la porte-fenêtre d'une des baies vitrées donnant sur un vaste bureau était ouverte. Khan se tenait à l'intérieur, penché au-dessus d'un meuble, comme s'il se désintéressait totalement de son poursuivant. Artem avança, sur ses gardes, pointant son Astra 1800, sidéré par l'attitude du tueur. Khan croyait-il l'avoir définitivement distancé après sa chute ?
l'avoir mortellement touché? Ou ce qu'il cherchait dans ce bureau était-il plus important que d'être pris à revers? Artem fit un pas supplémentaire. Il avait repéré un bloc de pierre derrière lequel il pourrait s'abriter. Ensuite, il pourrait braquer Khan, lui ordonner de se retourner, de ne pas bouger, de ne surtout pas saisir une arme ou de toucher son poignet, même s'il ne pouvait se téléporter. Un dernier pas. Khan se retourna soudain, comme s'il avait senti le policier s'approcher dans son dos. Il serrait dans sa main droite un automatique à long canon et vida le chargeur sur le commandant. Artem plongea juste à temps. Pas assez vite, pas assez loin pour atteindre le bloc de pierre. Trop brusquement pourtant, et dans sa chute, son astra lui échappa. Il se retrouva allongé, désarmé, et vit Khan pointer à nouveau son arme, plus lentement cette fois. Le tueur se trouvait à moins de 20 mètres du policier. Il ne pouvait pas le rater. « Game over », pensa Artem Akinis, levant les yeux vers les sommets de la montagne pour en admirer une dernière fois l'infinie majesté. Le bolide surgit derrière trois sapins. Une bombe de plus de 150 kilos lancée à près de 80 km/h, rebondissant sur la neige plus que glissant dessus, inarrêtable. Elle explosa la seconde suivante dans un effroyable nuage de neige. Le tapis de bambou vola jusqu'aux baies vitrées, provoquant une cascade de verres brisés. Les occupants avaient roulé sur le côté et un instant plus tard se redressèrent, surgissant du brouillard blanc, revolver au poing. Babou et Micha côte à côte, un géant et une fée, jambes écartées, regard aiguisé. Artem se releva d'un bond, ramassa son astra. « Couvrez-moi !» Il sprinta vers le resort, écrasant les débris de glace et les éclats de verre sous ses pieds. Khan avait-il été touché, blessé? Personne dans le bureau. Babou et Micha s'approchèrent derrière le commandant, leurs armes toujours en joue. Personne. La pièce où se trouvait Khan, la seconde avant que Babou et Micha ne surgissent, était vide. Khan avait disparu, évaporé. Il ne restait plus dans le bureau que des piles de papiers renversés dont quelques-uns continuaient de voltiger comme des oiseaux blancs fatigués. Plus de 50 policiers fouillaient le Kyber Himalayan Resort, jusque dans ses infimes recoins, sans relever la moindre trace de Khan. Une autre équipe, après s'être munie de pelles, de combinaisons isothermes et de housses mortuaires stérilisées, exhumait méthodiquement les cadavres anonymes enterrés sous la neige. Après plusieurs heures de recherche, leur intuition, depuis qu'ils avaient découvert le bureau vide, était devenue une certitude. Khan s'était téléporté. Comment y était-il parvenu? Alors que même les informaticiens du bureau d'investigation criminelle n'avaient pas réussi à forcer cet espace privé. Avait-il agi seul? Pourquoi n'avait-il pas activé son TPC avant? Les questions se bousculaient dans la tête du commandant Akinis. Quand il perdit tout espoir de découvrir un nouvel indice, il fit sortir tous les policiers du bureau de Tan Prao pour rester seul avec ses adjoints. Il avait besoin de faire le point. Il avait besoin de fouiller à nouveau cette pièce, dans le calme, uniquement avec Babou et Micha. « J'ai vérifié sur Pangaya !» pestait la capitaine, tabletta à la main. Seul Tan Prao avait l'autorisation de se téléporter dans son espace privé. Personne d'autre. Ni petit ami, ni famille, ni collaborateur. Personne. Alors ? Micha observa son reflet dans l'une des rares fenêtres non brisées de la baie vitrée. Elle grimaça devant son legging diamantina taché, son pull McKinley froissé et sa tignasse noire, encore mouillée de neige, qui tombait en baguette sur ses yeux. Généralement, après les arrestations mouvementées, Micha demandait l'autorisation à son supérieur de s'absenter une ou deux minutes, le temps de faire un saut chez elle, de changer de tenue et au passage, se refaire une beauté. Impossible ici. Elle ferma un instant les yeux, imaginant disparaître et réapparaître dans un monde où personne ne la verrait aussi mal habillée et si peu maquillée. Puis les rouvrit et se reconcentra. « Pour faire court, » résuma la jeune Coréenne, « soit Khan est un génie informatique, capable de transgresser toutes les règles connues de la téléportation quantique, soit il bénéficie de la part de Pangaya d'une autorisation de déplacement exceptionnelle. » Elle marqua un silence. « Plus exceptionnelle encore que celle accordée aux meilleurs enquêteurs du bureau d'investigation criminelle. » Artem prit quelques secondes pour réfléchir. Babou, à côté d'eux, classait avec méthode les centaines de feuilles éparpillées dans toute la pièce.
envolé des tiroirs de Tan Prao après que Khan avait tout ouvert, tout fouillé, puis s'était désintégré. « Misha, tu sous-entends quoi exactement ?»«
Rien !» répondit rapidement Misha, tout en essayant de coincer une de ses mèches raides et rebelles derrière son oreille. « Rien, sinon que Galileo Nemrod, qui aime raconter que sa base Pangaea est infaillible, ne va pas être content. »
Cette fois, ce fut Artem qui grimaça. L'hypothèse d'un rendez-vous avec le président Nemrod ne l'enchantait pas. Il détestait rendre des comptes, rédiger des rapports, passer des heures en réunion. Par le passé, on lui avait souvent proposé des promotions dans l'une des directions du département sécurité de l'Organisation mondiale des déplacements. Cellule des disparitions inquiétantes, direction des téléportations financières et commerciales, centre d'accueil international des mineurs isolés, bureau de contrôle de la diffusion des drogues et addictions. Il avait toujours refusé. Il était un flic de terrain et d'action, pas un agent d'administration. Comment, à l'époque de la téléportation, pouvait-on avoir envie de s'enfermer devant un écran à compiler des dossiers ?
« Regardez ça !» fit Babou derrière eux.
Le lieutenant sénégalais avait fait du vide sur le bureau de Tan Prao. Il commença par y poser un livre, celui d'Ossian, le fameux droit du sang, puis étala plusieurs feuilles. Artem saisit la première. Il découvrit une liste de noms et en face de chacun des informations sommaires. Une nationalité, une langue, un statut, une date. Il parcourut les 7 premières lignes. Saladin Ziryab, kurde irakien, langue kurde, militant. Le 4 mars 2095. Elisapi Unark, Inuit Aléout, langue esquimau, femme politique, le 12 juin 2095. Moussa Agossad, Touareg, langue tamashek, commerçant nomade, le 25 novembre 2095. Fabio Idrissi, Corse, langue corse, berger poète, le 25 novembre 2095. Alou Kadiev, Tchétchène, langue tchétchène, homme politique, le 3 janvier 2096. Chenoa Galvirino, Mapuche, langue Mapudungun, médecin, le 16 août 2096. Aboulman, Rohingya, langue bengali, imam théologien, le 25 novembre 2096.
« Qu'est-ce que ça signifie ?» s'interrogea Misha, attrapant elle aussi une feuille. « Qui sont ces hommes ?»«
Il y a des femmes aussi. » précisa Babou. Ce sont des prisonniers politiques.
La capitaine bondit. Ses cheveux raides parurent se dresser sur sa tête.
Des prisonniers politiques ? Attends, tu veux dire qu'il s'agit de terriens qui vivent en dehors de Pangaea, sur des territoires tabous ?
Elle se pencha à nouveau pour lire les noms.
Des assignés ?
Babou confirma d'un signe de tête.
Des assignés, comme tu dis. Avant, on disait déporté.
Artem n'ajouta rien. Il se concentrait sur la liste et de temps en temps levait les yeux en direction du mur opposé.
Déporté où ?
Insista Misha. Babou attrapa une autre feuille, plus large que les autres, représentant un planisphère. Presque au centre du continent eurasien, un grand cercle rouge était tracé.
Au Kazakhstan, on dirait. Un ancien état de 3000 kilomètres de longueur. Davantage que de Brest à Moscou. L'une des régions les moins denses de la planète. Moins de 5 habitants au kilomètre carré officiellement. Ils sont là-bas quelques centaines en semi-liberté.
Artem délaissa enfin la liste des assignés pour se tourner vers la carte dépliée par son adjoint.
« Ils vont aller là-bas », se contenta d'affirmer le commandant. « Qui ?»«
Khan, bien entendu. C'est eux qu'ils cherchaient, j'en suis persuadé. »
Lilio de Castro ira aussi avec sa copine si elle accepte encore de le suivre.
J'ignore quel est le but du tueur, mais je suis certain que ce journaliste va vouloir rencontrer ses assignés.
Chapeau, monsieur de Castro,
intervint Micha en battant des mains.
Notre journaliste insaisissable vise le grand chelem.
Après l'interview du président Galileo, les dernières confessions d'un trafiquant de TPC, il décroche l'entretien exclusif avec les assignés.
Sauf si on les trouve avant,
nuança Babou.
Ma petite reine de Pangaea, à toi de jouer. Selon toi, où peuvent-ils être allés ?
Misha avait réussi à dénicher un élastique sur le bureau de Tan Prao et essayait de redresser sa frange en un palmier improvisé.
Aucune idée ? Ils ne nous ont même pas envoyé un petit mot pour nous remercier de leur avoir évité de s'écrabouiller comme des lemmings.
Si tu veux les détails, mon commandant. Ils se sont d'abord téléportés à leur domicile selon la procédure d'urgence quand on débloque un TPC. Cléophée Loisel n'est même pas passée faire une bise à sa pauvre maman. Elle a aussitôt utilisé un TPC clandestin. Sans doute un souvenir emporté de chez ce trafiquant pour filer ailleurs. Si tu veux mon avis, elle a rejoint illico son beau journaliste. Il semble filer le parfait amour, ces deux-là.
Artem paraissait peu apprécier l'ironie de son adjointe et lui adressa un regard noir. Surprise, la jeune coréenne en laissa échapper son élastique qui faillit éborgner Babou. Le commandant se pencha sur le cercle rouge tracé au centre de la terre.
« On peut les coincer !» affirma Artem. « Ils vont essayer d'y entrer. Ils vont tout faire pour rejoindre la terre des assignés. »
« Plus de 10 000 kilomètres de frontière, tout de même, » fit Babou. « Ce n'est pas exactement une tête d'épingle punaisée sur un planisphère. »
Le lieutenant sénégalais, en une série de gestes précis, replia la carte, rassembla les feuilles, ramassa l'élastique de Micha et rangea le tout sur le bureau. Il posa une main amicale sur l'épaule de son chef.
« Et toi, mon grand, tu vas avoir une longue conversation avec notre président.